Bonjour, vous m'entendez bien? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'a-t-il fait? Jésus et ses disciples étaient sur la route pour monter à Jérusalem. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Lorsqu'ils apprirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils se mirent à crier de plus belle : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, il les appela et il leur demanda : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux. Et aussitôt, ils recouvrirent la vue et suivirent Jésus. Ce texte se trouve donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, versets 29 à 34. Outre cette histoire sur laquelle nous analyserons la réaction des personnages, ce qu'a fait Jésus, ce qu'a fait la foule, ce qu'ont fait les disciples, ce qu'ont fait les aveugles, nous verrons que dans ce texte, il y a deux prières et il y a une question. Mais avant d'aller plus loin, il est intéressant de s'arrêter sur le contexte de cette histoire. Jésus et ses disciples sont sur la route pour monter à Jérusalem. Peu de temps après, il y aura l'entrée triomphale dans Jérusalem. Les gens poseront leurs vêtements, poseront des branches d'arbres et crieront « Hosanna au fils de David, à celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors on pourrait penser que la foule est dans une ambiance un peu de préfète, à l'image de ces temps anciens où lorsque Salomon a été désigné ou un comme roi, la foule était derrière, elle jouait de la flûte, elle criait au point que la terre en tremblait. Et donc nous pouvons avoir l'idée que cette foule, cette grande foule qui suit Jésus, est dans cet état d'esprit un peu d'excitation, vous savez, à la veille de fêtes, de moments historiques et très forts. Mais en fait, l'ambiance est tout autre. L'évangile de Marc nous dit qu'ils étaient en route pour monter à Jérusalem et que Jésus marchait en tête. Et l'angoisse s'était emparée des disciples. Et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Alors Jésus a pris à part les 12. Et il s'est mis à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux interprètes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Et Luc 18, passage un peu parallèle de cette histoire, nous dit que les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Alors, ce n'est pas une ambiance de préfète. Ce cortège qui suit Jésus est dans la crainte. Ce cortège, cette grande foule qui suit Jésus, est dans l'angoisse. Et ce dont j'imagine plutôt un silence plutôt lourd, pesant, un silence de l'angoisse, un silence de la crainte, un silence de l'incompréhension, de l'incompréhensible, un silence de l'indicible, un silence de l'inconnu. Et dans ce silence pesant, solennel, un cri. Le cri de ces deux aveugles. « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Et ça devait être plus fort que cela, et peut-être que ça vous gêne, ma façon de crier, mais c'était sans doute plus fort que cela. « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Un cri, un appel au secours, une prière. Une prière qui peut paraître imprécise, un peu vague, et pourtant une prière qui sait à qui elle s'adresse. « Seigneur, toi qui peux tout, fils de David, toi qui es le Messie, celui que nous attendons et qui nous délivrera, aie pitié, toi qui es compatissant, toi qui es plein d'amour. » Je lis un commentaire de la Bible annoté. Cette appellation « fils de David » prouve que ces pauvres aveugles connaissaient Jésus et croyaient en lui comme au Messie promis à Israël. Aussi se borne-t-il dès l'abord à implorer sa compassion, sans oser rien demander de plus. C'est une prière de foi. L'auteur aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou celui qui récompense ceux qui le cherche. Une prière qui s'impose parfois. La seule chose parfois que nous sommes capables de dire, capables de prier, capables de crier, capables de pleurer. Je pense à cette femme cananéenne dans l'évangile de Matthieu. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, alors que sa fille est cruellement tourmentée par le démon. Je pense à ces 10 lépreux. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Aie pitié. C'est le Kyrie eleison de la liturgie catholique et de la liturgie orthodoxe. C'est une formule de prière qui, dans sa brièveté, renferme l'aveu implicite de toutes nos misères et la confiance en le Dieu tourmenté par la soif dans le désert. Kyrie eleison. Une prière toute simple, une prière de foi, mais aussi une prière de frère, une prière de frère de misère, une prière solidaire. Aie pitié de nous. Ils sont deux, ils prient pour eux, l'un pour l'autre, les deux pour les deux. Et c'est finalement le Notre Père, cette prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je vais lire ici un commentaire de Dietrich Bonhoeffer dans Le Prix de la Grâce. Ce que les disciples demandent, c'est un pain qui leur soit commun. Il ne faut pas qu'un seul d'entre eux le demande uniquement pour lui. Et ils demandent aussi que Dieu veuille donner leur pain quotidien à tous ses enfants, sur la terre entière. Car ce sont leurs frères, selon la chair. Donne-nous notre pain quotidien. Et encore, mais Dieu ne veut exaucer leurs prières qu'à condition qu'ils pardonnent aussi l'un à l'autre leurs fautes fraternellement et de bon cœur. Aussi portent-ils en commun leurs offenses devant Dieu. Et c'est en commun qu'ils demandent grâce. Que Dieu ne veuille pas me pardonner mes offenses à moi seul, mais à nous tous. Nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. La suite de l'histoire nous surprend et ne nous surprend pas vraiment. La foule les rabroua pour les faire taire. Vous avez le passage, oui, qui est... Bon, voilà, nous sommes au verset 31. La foule les rabroua pour les faire taire. Pourquoi ? Parce que peut-être que ces cris dérangent. Lorsque j'ai crié, peut-être que vous avez été mal à l'aise. Ces cris gênent, ces cris perturbent ce moment si particulier, si solennel. Nous sommes à l'aube d'un moment historique, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose de grave. Et ces deux mendiants, ces deux aveugles bien connus sans doute de Jéricho, perturbent ce silence. Et puis, ce n'est peut-être pas le moment de s'arrêter. Ces cris veulent arrêter le cortège alors qu'on est devant et qu'il faut avancer vers ce moment crucial, ce moment dramatique, ce moment historique. Est-ce qu'aussi, de la part de cette foule et des disciples, on ne sait pas si les disciples étaient avec la foule pour rabrouer ces aveugles, mais peut-être qu'il y avait aussi une volonté de protéger Jésus. Ils avaient, de façon un peu inconsciente, cette notion que Jésus allait vivre quelque chose de très important. Et peut-être que leur réaction était de protéger Jésus, de protéger ce silence respectueux. Et puis peut-être aussi dans cette foule, il y avait un peu cette réaction de « vous ne faites pas partie du cortège, c'est trop tard pour vous, le cortège continue sans vous ». Il y a des appels au secours qui nous dérangent, des appels au secours et des cris parfois indécents qui nous perturbent et que nous ne voulons pas entendre parce que nous sommes gênés. Alors nous montons le son de nos musiques de vie, où nous éteignons le poste, nous détournons le regard de la misère, nous éteignons notre télévision. Mais ce qui est formidable, c'est que ces aveugles ne vont pas se décourager. La foule les rabroie pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle. « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Et ils ont dû s'égosiller. Parce que c'est une occasion qui ne se représentera pas. C'est la chance de leur vie. Leur état le justifie. C'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui. Et Sophie, la semaine dernière, nous a parlé de l'importance du présent. Nous sommes écartelés entre le passé que nous regrettons et puis le futur auquel nous aspirons au détriment du présent. Et là, les aveugles vivent le présent. Pour eux, c'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui. Jésus passe devant eux. C'est aussi un bel exemple de persévérance et d'insistance. Souvenez-vous la parabole du juge inique et de la veuve opiniâtre insistante pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Et Jésus conclura par ces mots : « Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Et qu'il tardera à leur venir en aide. » Et Jésus s'arrêta. Le seul qui savait vraiment ce qui allait arriver. Celui qui savait qu'il y aurait cette entrée majestueuse, pleine de joie de Jérusalem, mais qui savait que c'était un moment éphémère. Celui qui savait qu'il serait dans le jardin de Gethsémané et qui dira à ses disciples « Je suis triste à en mourir. » Celui qui priera son Père que cette coupe puisse s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Celui qui sait qu'il y aura Golgotha et qui criera « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le seul qui savait ce qui allait lui arriver, celui-là s'est arrêté. Quelques versets auparavant, Jésus dira à ses disciples : le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus s'est arrêté. Comme le bon Samaritain qui s'est lui arrêté sur cette même route, entre Jérusalem et Jéricho, pour prendre soin de cet homme qui était là, gisant sur la route. Jésus s'arrêta et les appela. Dans Marc, un passage qui est parallèle. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appela l'aveugle en lui disant cette belle parole « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Et alors Jésus pose une question. Une question qui, lorsqu'on l'entend, et c'est sans doute la réaction que vous avez en lisant ce passage, c'est une question qui surprend. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ce n'est pas une réponse un peu à la 21e siècle qui est en gros « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon gars ?» Ce n'est pas une question d'impuissance. Mais c'est une question quand même qui est un peu étonnante, surprenante, détonnante. On a envie de dire à Jésus « Mais c'est évident !» La réponse est tellement évidente. Ils sont aveugles. C'est peut-être une question pour tester la foi, pour pousser ces hommes qui sont passés d'une prière assez vague, « Aie pitié de nous !» à une prière plus précise. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Une prière plus précise et une prière donc qui engage. Et puis finalement, c'est une bonne question. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et admettons que parfois, si on nous posait la question, peut-être que nous aurions du mal finalement à répondre à cette question. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ou encore, le voulez-vous vraiment ? Et puis dans cette question, j'y vois beaucoup de respect de la part de Jésus. Il respecte en fait la liberté de ces hommes. Je vois à peu près votre problème, c'est le cas de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment que je fasse pour vous ? Jésus ne force pas la réponse, il attend que les aveugles lui disent librement ce que Jésus peut faire pour eux. Il est intéressant de voir que Dieu ou Jésus pose souvent des questions. Et dans la Genèse, Dieu pose à plusieurs reprises des questions au tout début de la Bible. Et donc, dans un commentaire du livre de la Genèse de Dominique Serbelot, dans son livre « Jardin perdu », voilà ce qu'il écrit. « Le Seigneur ne cesse pas de poser des questions, comme pour susciter la réponse de l'homme, très littéralement, pour le rendre responsable. » Répondre, c'est être responsable. Alors, c'est la deuxième prière de la part des aveugles. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Une prière toute simple, une prière précise, une prière de foi, une prière qui engage aussi, parce qu'il y aura un avant et un après, si Jésus répond. Une prière qui engage parce qu'elle conduira le changement. C'est une prière que nous pouvons faire nôtre. Il est souvent question de la notion d'aveuglement ou de vue dans une signification plus spirituelle. Que nos yeux s'ouvrent, telle pourrait être notre prière. Parole de Jésus, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouirait de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu ? Les yeux sont comme la lampe du corps. Quand nous ne voyons pas, l'ensemble de notre corps est dans la nuit et dans les ténèbres. Mais Jésus nous dit en fait que notre lumière, notre façon de voir dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset est enserré entre deux choses. La première, le conseil de Jésus de dire de nous amasser des trésors dans le ciel et ne pas nous amasser des trésors sur la terre, parce que là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et puis ensuite, Jésus nous parle en fait de « nul ne peut servir de maître ». Donc notre façon d'aimer Dieu, de façon radicale, sans compromis. Et donc cette lampe du corps, qu'est notre regard, que sont nos yeux, dépend en fait de de notre trésor intérieur dépend en fait de notre manière aussi d'aimer Dieu. Oui, que nos yeux s'ouvrent. Parole de l'Ecclésiaste. J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Mais l'Ecclésiaste dira aussi, plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Et cette prière ouvre nos yeux et nous engage, parce qu'elle nous permet de voir les choses peut-être différemment. Ces appels au secours, cette misère, ces injustices, ces tourments. Plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. Que nos yeux s'ouvrent. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que nos yeux s'ouvrent. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que nos yeux s'ouvrent. Prière de Paul pour les Éphésiens. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Et avons-nous vêtu, et avons-nous ou nu, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait toutes ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que nos yeux s'ouvrent. Et enfin, parole de Dieu à l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collyre pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Que nos yeux s'ouvrent. Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Pris de pitié pour eux. Cela résonne bien, c'est une belle réponse à ce « aie pitié de nous ». Jésus est ému de compassion, ça remue ses entrailles. Voilà son cœur, voilà sa motivation. Et Jésus va toucher leurs yeux. Il y a une implication, il y a une proximité, c'est comme le collyre que l'on pose sur les yeux. Il prend sur lui cette infirmité, il touche les yeux malades, il met les mains dans le cambouis, il se salit les mains, il touche. Et la fin de l'histoire est belle. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Aussitôt, il y a parfois des prières qui n'ont pas une réponse de l'aussitôt, mais il y a aussi des aussitôt. Ils recouvrèrent la vue, ils virent à nouveau, c'est-à-dire qu'ils l'avaient perdu avant, et ils le suivirent. Leurs yeux se sont ouverts et leur vie a complètement changé. Ils étaient les mendiants assis au bord du chemin, ils font maintenant partie des marcheurs. Ils font partie de ceux qui suivent Jésus. Ils sont ces ouvriers qui ont été là sur la place et que le maître a embauché. Ce passage est aussi dans les versets qui précèdent ce texte. Ils font partie du cortège parce que les derniers sont les premiers. Et puis pour le suivre, il faut qu'il nous touche les yeux pour que nos yeux s'ouvrent. Et à l'inverse, en le suivant, nous marcherons dans la lumière. Alors notre regard sera clair. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Deux prières entrecoupées d'une question. Seigneur, aie pitié de nous. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que nos yeux s'ouvrent. Je vous invite maintenant à un petit temps de recueillement où nous pouvons peut-être exprimer nos Kyrie eleison, nos aie pitié de nous, en silence, dans le silence de notre cœur. Peut-être aussi entendre cette question si pertinente de Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et enfin, prier dans l'intérieur, à l'intérieur de nos cœurs, dans le silence de nos cœurs, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent sur Dieu, que nos yeux s'ouvrent sur nous-mêmes, que nos yeux s'ouvrent sur l'autre. Et pendant, je vais donc passer une musique et nous aurons un petit temps de recueillement. Juste un petit réglage technique.